Chapitre 13. Mercredi 9 décembre, l'après-midi. Eric avance entre les vitrines éclairées du rayon de Noël du grand magasin NK. Une femme vêtue de noir parle discrètement avec un client. Elle ouvre un tiroir et étale quelques bijoux sur un plateau en velours. Eric s'arrête devant une vitrine et regarde un collier Georg Jensen. Des triangles lourds, délicatement polis, enchaînés en pétales pour former une guirlande fermée. L'argent sterling poli dégage un éclat profond qui rappelle le platine. Eric se dit que le collier tomberait parfaitement sur le cou délicat de Simone et décide de le lui offrir pour Noël. Tandis que la vendeuse enveloppe le collier dans un papier glacé rouge sombre, le portable d'Eric se met à vibrer dans sa poche, résonnant contre la petite boîte en bois au perroquet. Il extirpe le téléphone et décroche sans regarder le numéro. Eric Maria Bark. Il entend un crépitement étrange. Des chants de Noël résonnent au loin. « Allô ?» dit-il. Puis une voix faible dit
« C'est Eric ?»«
Oui, c'est moi. » »«
Je voulais savoir. »
Eric croit alors entendre quelqu'un rire en arrière-plan. « Qui est à l'appareil ?»«
Minute, docteur. Je voulais seulement te demander quelque chose. »
dit la voix d'un ton cette fois résolument moqueur. Eric s'apprête à raccrocher quand soudain la voix se met à hurler
« Hypnotise-moi ! Je veux être !»
Eric éloigne brutalement le téléphone de son oreille. Il coupe la communication et vérifie la provenance de l'appel, mais c'était un numéro masqué. Un bip lui annonce qu'il a reçu un SMS. Encore un numéro masqué. Il l'ouvre et lit « Peux-tu hypnotiser un cadavre ?» Décontenancé, Eric récupère le cadeau de Noël dans un petit sac rouge et or et s'éloigne. Dans le hall côté Amgatan, il croise le regard d'une femme vêtue d'un manteau noir informe. Elle se tient sous l'arbre de Noël suspendu haut de 3 étages et elle observe Eric. Il ne l'a jamais vue auparavant, mais son regard est clairement hostile. D'une main, il ouvre le couvercle de la boîte en bois rangée dans la poche de son pardessus, prend un comprimé de codéine, le porte à sa bouche et l'avale. Il sort dans le froid. Des gens se bousculent devant les vitrines. Des petits Pères Noël dansent dans un paysage en bonbons. Un caramel avec une grande bouche fredonne un chant de Noël. Des enfants d'une crèche, vêtus de vestes jaunes par-dessus des combinaisons épaisses, regardent en silence. Le téléphone sonne de nouveau, mais cette fois il vérifie le numéro avant de décrocher, constate que c'est un numéro de Stockholm et répond avec prudence « Eric Maria Bark. »
« Bonjour, je m'appelle Britt Sundström, je travaille pour Amnesty International. »«
Bonjour, » répond-il perplexe.
« J'aimerais savoir si votre patient a eu la possibilité de décliner l'hypnose. »«
Je vous demande pardon, » dit Eric, tout en regardant dans la vitrine un grand escargot tiré un traîneau rempli de cadeaux de Noël. Son cœur s'emballe et des remontées acides lui brûlent la gorge.
« Kubark, le manuel de la CIA sur les tortures qui ne laissent pas de traces, mentionne l'hypnose comme l'un des... »«
Le médecin de garde a jugé que... »«
Vous estimez donc n'avoir aucune responsabilité ?»
Je ne pense pas que je devrais commenter cette affaire.
Une plainte a déjà été déposée contre vous,
dit-elle sèchement. Je vois, dit-il d'une voix faible, et il raccroche. Lentement, il commence à monter vers la place Sergel, la tour en verre lumineuse et la maison de la culture, regarde le marché de Noël et entend un trompettiste jouer Douce Nuit. Il tourne dans Zweihaven et passe devant toutes les agences de voyage. Devant l'épicerie 7-Eleven, il s'arrête et lit la une des journaux du soir. Un enfant placé de force sous hypnose avoue l'assassinat de toute sa famille. Le scandale de l'hypnose, Eric Maria Bark met en danger la vie d'un garçon. Eric sent son pouls battre dans ses tempes. Il presse le pas, évite de croiser les regards alentour. Il passe près de l'endroit où Olof Palme a été assassiné. 3 roses rouges sont posées sur la plaque commémorative. Eric entend quelqu'un l'appeler et glisse dans un magasin de hi-fi. La fatigue, qui agissait jusque-là comme une ivresse, est alors remplacée par une sorte de fébrilité, un mélange de nervosité et de désespoir. Ses mains tremblent tandis qu'il prend un autre puissant comprimé d'analgésique. La capsule se dissout, la poudre pénètre dans ses muqueuses, son estomac le brûle. À la radio, un débat fait rage pour savoir s'il convient ou non d'interdire l'hypnose comme mode de traitement. Un homme raconte qu'un jour, sous hypnose, on lui a fait croire qu'il était Bob Dylan.
« Je savais bien que ce n'était pas vrai, »
dit-il d'une voix traînante.
« Pourtant, j'étais comme forcé à dire ce que j'ai dit. Je savais que j'étais hypnotisé. Je voyais mon pote assis là, à attendre, et pourtant je pensais que j'étais Dylan. Je parlais en anglais, c'était plus fort que moi. J'aurais avoué n'importe quoi. »
Le ministre de la Justice dit avec son accent du Smoland
« Utiliser l'hypnose comme méthode d'interrogatoire constitue une violation du droit. Il n'y a pas de doute là-dessus.
« Donc, Éric Maria Barque a violé la loi ?»
demande le journaliste d'une voix tranchante.
« Ce sera au parquet d'en juger. »
Éric quitte le magasin, tourne dans une rue perpendiculaire et continue sur Lundmakergatan. Lorsqu'il s'arrête devant la porte du 73 Lundmakergatan, la transpiration lui dégouline dans le dos. Il tape le code et ouvre. Il cherche ses clés à tâtons pendant que l'ascenseur file vers le haut. Une fois rentré, il ferme la porte à clé, titube jusqu'au salon, tente de s'extirper de ses habits, mais chaque fois il penche vers la droite et manque de tomber. Il allume la télévision et voit le président de la Fédération suédoise d'hypnose clinique assis dans un studio télé. Éric le connaît très bien, il a vu de nombreux collègues pâtir de son orgueil et de son carriérisme.
« Nous avons exclu Barque il y a 10 ans, et il n'est plus le bienvenu. »
dit le président avec un petit sourire.
Est-ce que cette affaire risque d'entacher la réputation de l'hypnose sérieuse? L'ensemble de nos membres suit des règles d'éthique strictes,
répond-il avec dédain.
Par ailleurs, il existe des lois en Suède contre les charlatans et leurs pratiques.
Éric se déshabille avec des mouvements maladroits, s'assied dans le canapé pour se reposer, rouvre les yeux en entendant un sifflet et des voix d'enfants provenant de la télé. Dans une cour de récréation ensoleillée, il voit Benjamin, les sourcils froncés, le bout du nez et les oreilles rouges, les épaules remontées. Il a l'air d'avoir froid.
« Est-ce que ton papa t'a déjà hypnotisé ?»
demande le journaliste.
« Quoi ? Non, bien sûr que non. »«
Comment le sais-tu ?»
interrompt le journaliste.
« S'il t'avait hypnotisé, tu ne pourrais pas être tout à fait certain d'en avoir été conscient. »«
Non, bien entendu. »
ricane Benjamin, surpris par l'audace du journaliste.
« Comment réagirais-tu s'il s'avérait qu'il l'ait fait ?»«
Je ne sais pas. »
Une rougeur pointe sur les joues de Benjamin. Éric s'approche du téléviseur, l'éteint, va dans la chambre à coucher, s'installe sur le lit, ôte son pantalon et pose la boîte au perroquet dans le tiroir de la table de chevet. Il ne veut pas penser à la nostalgie qui s'est réveillée en lui lorsqu'il a hypnotisé Joseph Heck et qu'il l'a accompagné dans les profondeurs bleues de la mer. Éric s'allonge, tend la main vers le verre d'eau sur la commode, mais s'endort avant même de l'avoir atteint. Encore à moitié endormi, il pense à son père qui débarquait dans les fêtes d'enfants, vêtu de sa queue de pie spéciale, les joues dégoulinantes de transpiration. Il faisait des figures avec des ballons et sortait des fleurs en plumes colorées d'une canne creuse. Quand plus tard il avait quitté la maison de Sollentuna pour s'installer dans une maison de retraite, il avait écouté Éric lui parler de son travail en hypnothérapie et proposé qu'ils montent un numéro ensemble. Il serait le gentleman cambrioleur, tandis qu'Éric sur scène hypnotiserait les gens pour les faire chanter comme Elvis et Zara Leander. Soudain, il est complètement réveillé. Il voit Benjamin frigorifié dans la cour de récréation devant ses camarades de classe et ses professeurs, face à la caméra et aux journalistes souriant. Éric se redresse dans le lit, sent les brûlures lui lacérer l'estomac, prend le téléphone sur la table de nuit et appelle Simone.
« Galerie de Simone Barque ?»
répond-elle. « Salut, c'est moi. »
« Attends 2 secondes. »
Il l'entend marcher sur le parquet et refermer la porte du bureau derrière elle.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demande-t-elle.
« Benjamin a téléphoné et... »
Le lynchage médiatique a commencé et...
« Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu as fait ?»
Le médecin chargé du patient m'a demandé de l'hypnotiser.
« Mais avouer un crime sous hypnose... »
« Écoute-moi !» l'interrompt-il. « Tu veux bien m'écouter ?»«
Oui. »
« Ce n'était pas un interrogatoire. »
« Appelle ça comme tu... »
Elle se tait. Il entend sa respiration.
« Pardon. »
dit-elle à voix basse. « Ce n'était pas un interrogatoire. La police avait besoin de trouver un indice, n'importe quoi, parce qu'ils pensaient que la vie d'une fille dépendait de cette information. Et le médecin qui était responsable du patient à ce moment-là avait jugé que les risques pour sa santé étaient minimes.
Mais...
nous pensions qu'il était une victime. Nous essayions simplement de sauver sa sœur. Il se tait et entend la respiration de Simone.
« Qu'est-ce que tu as encore fait ?»
dit-elle ensuite d'une voix pleine de tendresse. « Ça va aller. »«
Vraiment ?»
Eric retourne à la cuisine, mélange du sel aspire, un antalgique, et fait glisser son médicament pour l'ulcère avec ce liquide sucré.